Politique, économie, consommation israélienne, l'analyse et l'expertise de Yael Ifra. Yael, bonsoir.
Bonsoir Yael.
Ravie de vous retrouver. On avait décidé de parler de cette loi de l'enrôlement. Aujourd'hui, ça a été un vrai tremblement de terre avec cette décision de, enfin, la décision de la Haute Cour de justice affirmée et annoncée par Gali Be'Arav Maharal, la conseillère juridique du gouvernement. Faites-nous un petit peu d'ordre dans tout ça.
Quelle journée, Yael, hein. Incroyable. Oui, une journée, ça fait très longtemps que je suis quand même, que je suis la politique et que je suis à l'intérieur de la politique en Israël. Et franchement, j'en ai eu peu des journées comme ça, quelques-unes, mais là, c'était absolument un feu d'artifice. Ouais. Alors, pour faire un peu d'ordre, je voudrais juste, en fait, personne ne comprend très bien ce qui se passe parce que c'est quand même assez technique.
Et puis ça change tout le temps.
Ouais, et puis pas seulement, il faut comprendre le contexte. Sans rentrer vraiment dans des grands détails, je voudrais juste expliquer pourquoi on est arrivé là. Pourquoi la Cour suprême a été sollicitée, pourquoi il y a eu un conflit avec la conseillère juridique du gouvernement et tout ça, et comment on en est arrivé ce soir à ce point. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Israël, en fait, il y a eu pendant de nombreuses années je passe pas sur le. On parlera après du contexte, hein, d'accord, mais des exemptions de conscription, donc pour les jeunes ultra-orthodoxes, on va dire haredim. Ça ira plus vite et tout le monde comprend le mot, des jeunes haredim donc, qui étudient dans les yeshivot de 18 ans jusqu'à des âges qui ont varié au cours des années. Mais en tout cas, il y a eu à chaque fois quelque chose qui était organisé par la loi ou par des rallonges, on demandait à la Cour suprême de donner du temps pour réfléchir, on essayait des formules qui ne marchaient pas. Tout ça, c'est depuis l'annulation de la loi Tal, hein, qui avait annulé le service militaire pour les Haredim. En 2014, elle a été annulée par la Cour suprême parce qu'elle était inégalitaire. Et donc, ça fait 10 ans qu'on se traîne cette histoire de encore 6 mois, encore 3 mois, on va donner une réponse, on va essayer de nouvelles formules, etc. Donc, on peut quand même dire que la Cour suprême a été extrêmement patiente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une loi qui avait été passée et qui permettait d'exempter de façon temporaire les étudiants de Yeshiva, et cette loi a expiré au mois de juillet. Et à ce moment-là, la Cour suprême a demandé au gouvernement d'arranger les choses de façon définitive. On ne peut pas toujours se baser sur des choses qui étaient temporaires. Et donc, le 1er juillet, donc c'était le nouveau gouvernement, Yael, on était encore en pleine réforme judiciaire, vous vous en souvenez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de faire passer une loi, puisqu'on était en pleine vacances de la Knesset, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres, comme tous les dimanches, et puis tout simplement a donné la compétence, ou le droit plutôt, au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de ne pas appliquer la loi de conscription. Ils ont dit, bon, il n'y a pas pour l'instant de loi qui organise ça, on est censé faire venir tout le monde, bon ben toi, tu es ministre de la Défense, tu vas déclarer que ce n'est pas grave, pour l'instant, on n'applique pas la loi. Ok. Donc, c'est ce qui s'est passé, sauf qu'évidemment, il y a eu énormément de requêtes qui ont été présentées à la Cour suprême, parce qu'on ne peut pas donner à un simple ministre la compétence de ne pas faire appliquer une loi sur laquelle, donc qui est une loi du service militaire, qui est une loi importante de l'État d'Israël.
Elle fait partie des lois fondamentales
d'égalité. Non, elle ne fait pas partie des lois, elle fait partie des lois parce qu'il y a une loi socle qui est l'armée d'Israël. Donc, dedans, il y a le service militaire, mais elle n'organise pas exactement les conditions du service militaire. Mais oui, et en tout cas, c'est une loi qui... Enfin, en tout cas, ça touche à l'égalité entre les citoyens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'a pas reconnu à un simple ministre la capacité au sein de son ministère de faire appliquer de ne pas faire appliquer la loi. Donc, depuis le mois de juillet, on est dans cette histoire de la Cour suprême qui demande au gouvernement de faire une loi, une nouvelle loi. Le gouvernement qui dit « je travaille dessus, laissez-moi encore du temps, je travaille dessus, laissez-moi encore du temps », des rallonges, la guerre, etc. Et là, on arrive en fin de course, puisque le 31 mars, le gouvernement était censé présenter une loi. Alors évidemment, il ne s'est rien passé, et ce n'est que cette semaine, en début de semaine, hein, donc dimanche, que le ministère de la Défense a sorti ce qu'on appelle en hébreu « arlatat mahlitim », ça veut dire c'est une décision de conseil des ministres qui dit qu'il va y avoir une loi et qui présente le résumé de cette loi. Voilà, donc c'est ça, c'est pour ça que personne ne comprend rien cette semaine. Il n'y a pas de loi, mais on sait déjà ce qu'il va y avoir dans la loi puisque le gouvernement a fait une espèce d'annonce. C'est exactement ça. C'est une sorte de déclaration d'intention. Et donc, c'est dans cette déclaration d'intention-là que l'on voit que donc le gouvernement a l'intention d'augmenter l'âge de l'exemption jusqu'à 36 ans, pardon. Donc ça c'est qui est à 35 ans, pardon, qui est à 26 ans aujourd'hui, qu'il ne fixe pas de sanctions, qu'il ne fixe pas d'objectifs de conscription, etc. Et c'est sur cette base-là que la conseillère juridique au gouvernement, Gali Bahara-Vignara, déclare que cette loi ne convient pas, qu'elle n'apporte rien par rapport à la situation antérieure, qu'on ne peut pas dire de cette loi, même si elle n'existe pas encore, on est d'accord, qu'elle va organiser les choses, et elle dit qu'elle compte dire à la Cour suprême que ça ne convient pas. Voilà. Donc s'engage quelques jours de négociations très très courtes, le gouvernement renonce à l'histoire des 35 ans, et c'est ce qu'on appelle en langage politique, vous connaissez ça Yaël, une chèvre. C'est qu'en fait, quelque chose d'énorme qu'on fait rentrer dans la loi pour que comme ça, quand on l'enlève, c'est un peu comme le caillou dans la chaussure, on dit « Oh là là, je me sens beaucoup mieux ». Voilà. Donc, ils enlèvent ça, mais il reste quand même des tas de problèmes dans cette loi. Et donc, Gali Bahara-Vignara doit donner son avis sur cette intention à la Cour suprême. Et hier soir, elle fait fuiter son intention en disant qu'elle a l'intention de dire que ça ne va pas. Et que c'est bon, tout expire le 31 mars comme prévu. Nous n'avons donc pas de loi. Donc on revient à l'état antérieur des choses. L'état antérieur des choses, c'est que dans l'état d'Israël, à 18 ans, tout jeune homme et toute jeune fille doit faire l'armée, yeshiva ou pas yeshiva. Il n'y a pas d'exemption qui tienne. Et deuxième chose, elle relie cet état-là au fait que du coup, on ne pourra pas financer ces jeunes leurs études, si on peut utiliser ce mot-là, en yeshiva, donc les 700 shekels qui reçoivent de l'État plus toutes sortes d'autres avantages, puisque ils sont étudiants en yeshiva de façon illégale, puisqu'ils devraient être à l'armée. Donc c'est deux coups près qui tombent. Elle envoie cet avis, le gouvernement n'a donc pas de loi sous la main, et ce soir, la Cour suprême tranche, et comme vous l'avez expliqué, Yaël émet donc une sorte de référé, hein, donc un décret provisoire, en disant que effectivement tout est nul et non avenu. Il est interdit désormais au ministère des Finances de financer ses étudiants qui devraient être à l'armée. Et évidemment, l'armée doit s'organiser pour commencer à les enrôler. Bon, ça c'est sur le papier, mais en tout cas c'est ça qui s'est passé et le déroulement de cette folle semaine.
Alors, on entend des réactions qui ont commencé à fuser de tous les côtés, notamment celle d'Arié Dery, le chef du parti ultra-orthodoxe séfarade Chasse, qui dit le signe de Caïn. C'est une honte, un pays qui a besoin de la miséricorde du ciel, plus que des soldats. On n'a pas encore entendu la réaction de Yahadut HaTorah, mais j'imagine que ça va tomber aussi. Ils sont sur le point de réfléchir à faire tomber ou pas le gouvernement. La mort de Gour a dit qu'il fallait absolument partir du gouvernement. On voit maintenant que le député Tzvi Sukot a dit que Nasrallah Khamenei et Sinoir avaient ouvert le champagne. Est-ce que vous pensez que cette...
Vous n'avez pas entendu.
Ah ben ça vient de tomber, là. Je viens de voir ça sur les dernières dépêches. C'est pas mal aussi. Est-ce que vous pensez, toute blague à part, que le gouvernement risque de tomber, puisqu'on sait que c'est une condition sine qua non de tous les Haredim dans la coalition, si on maintient ce statu quo de « vous engagez pas nos Haredim ». Si vraiment...
J'en sais rien, mais j'en doute très très fort, Yaël. Je pense que cette occasion, ce gouvernement se reproduira pas une deuxième fois dans l'histoire d'Israël, ou alors c'est que les non-orthodoxes auront quitté le pays et auront levé les bras. Je pense que c'est surtout ce qui est en train de se passer qui est absolument affolant. S'ils regardent ça de l'extérieur, il s'agit quand même d'appliquer une loi d'égalité qui est en pleine guerre dans un pays où le ministère de la Défense, en fin de salle, a fait ses comptes et a annoncé qu'il a absolument besoin de façon urgente de 4 000 à 7 000 soldats, parce que vous savez, il y a des milliers de blessés. Plus de 600 soldats sont morts depuis le début de la guerre. Il paraît particulièrement indécent de vouloir maintenir à toute force assis sur une chaise pendant 6 ans des jeunes gens en bonne santé qui ont donc, comme vous, comme moi, deux bras, deux jambes. Moi, j'ai deux filles qui sont à l'armée. Je ne comprends pas très bien comment on peut en appeler au ciel, à la miséricorde, au judaïsme ou aux valeurs du judaïsme pour justifier. Non,
surtout qu'en plus, on leur propose un truc adapté, c'est-à-dire qu'on leur propose quelque chose où il n'y aura pas de femmes.
Mais même pas, je veux dire, même si ce n'était pas le cas, de toute façon, être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Bon, on ne va même pas rentrer là-dessus. En fait, on a créé en Israël. Sur les 75 dernières années, on a créé un monstre. Il n'y a pas d'autre mot. On est parti de David Ben-Gurion qui a accordé au Chazon Ish l'exemption pour 400 élèves de yeshiva, avec un nombre d'élèves qui était relativement faible, qui est resté faible jusqu'en 1977, hein, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin. Il y avait à peine en 1977 800 étudiants de yeshiva qui ne faisaient pas le service militaire. Ça représentait 2,5% de l'ensemble des soldats mobilisables, enfin des personnes éligibles au service militaire. Mmh. Aujourd'hui, on est à 23%, hein, donc ça c'est complètement, évidemment, complètement fou. Et à partir du moment où les ultra-orthodoxes ont fait alliance avec les différentes coalitions, quelles qu'elles soient, et que, donc, évidemment, ils ont une très forte natalité, une population qui double tous les 25 ans, eh bien, ils n'ont eu de cesse que d'élargir cet avantage qui, d'un avantage, est devenu un droit. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'est devenu un droit. Et non seulement ils sont exemptés de service militaire, mais on les paye pour ça. Cela coûte à l'État presque 2 milliards de shekels de financer chaque année les yeshivot. Des personnes sûrement très très bien intentionnées aux États-Unis, en France et dans toutes sortes de pays occidentaux font des dons pour financer des kollels qui permettent donc à ces jeunes gens de ne pas faire le service militaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi d'exemption de service militaire, c'est une double punition, même une triple punition. Pourquoi ? Parce que non seulement ces jeunes gens donc, ne sont pas au service militaire, ils ne font pas l'armée, mais la loi leur interdit de faire quoi que ce soit d'autre pendant toute la période d'exemption qui court aujourd'hui de l'âge de 18 ans à l'âge de 26 ans. Ils doivent littéralement rester enfermés à la yeshiva pendant ces 6 ans-là, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de quitter le pays seulement une semaine par an avec une autorisation spéciale. Et donc, ça veut dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas faire d'études, évidemment, hein, parce qu'ils ne vont pas aller apprendre un métier pendant ce temps-là. Donc, en fait, on condamne des jeunes gens en pleine santé, au sommet de leur forme, à rester enfermés dans une institution religieuse, à ne pas travailler, donc à ne pas produire pour la société, à ne pas payer d'impôts. Donc, non seulement on les paye, mais on perd des revenus. Quand ils sortent, ils n'ont donc pas fait d'études, ils ont souvent des enfants, et ça va être très, très compliqué de rattraper. Et donc, en fait, c'est une sorte de soustraction de force d'une partie des forces vives d'un pays que l'on va enfermer. Donc ça, c'est une problématique. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes en politique, aussi bien au ministère des Finances que de certains hommes politiques, qui disent qu'il faut détacher cette interdiction de travailler de la loi d'exemption. Ils disent, bon, ne faites pas l'armée, ok, très bien, restez à la yeshiva pendant la durée du service militaire, mais après, il faut travailler. On ne peut pas faire cette situation où, en fait, on laisse les gens enfermés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que cela sert de façon très importante les partis ultra-orthodoxes, parce que pendant que vous les avez enfermés à la yeshiva, eh bien évidemment, vous pouvez avoir une mainmise politique sur eux, et c'est la clé du pouvoir des partis ultra-orthodoxes. Et la façon dont le gouvernement qui a été formé l'année dernière, donc depuis le début janvier de l'année dernière, a tout misé sur cette histoire d'exemption de budget des yeshivot, bon, pas seulement, mais c'était vraiment la chose la plus importante, jusqu'à exiger aujourd'hui une loi socle étude de la Torah, qui serait censée superséder, je veux dire, être plus importante que toutes les autres lois, et qui permettrait en fait d'invoquer dans les lois de l'État d'Israël une raison religieuse pour laquelle un citoyen de cet État n'accomplirait pas ses devoirs comme les autres citoyens. C'est devenu quelque chose de complètement fou. Et je voudrais souligner, juste pour terminer, avant que vous me posiez d'autres questions, que au-delà donc de cette histoire, donc qui est quand même de ne pas faire l'armée, c'est devenu évidemment une façon de conserver ce monde ultra-orthodoxe, puisqu'il y a une véritable terreur d'aller à l'armée. Mais on a aussi inventé de toutes pièces un argument que vous ressortent systématiquement tous les étudiants de yeshiva à qui on dit « Pourquoi tu ne vas pas faire l'armée? Tu as l'air jeune et en bonne santé ?» Il vous dit mais c'est mes prières qui font gagner la guerre. Si les étudiants de Yeshiva n'étudiaient pas, il n'y aurait pas de victoire. Aujourd'hui, j'ai entendu un jeune qui disait que les soldats n'auraient même pas le droit d'exister, n'auraient même pas la possibilité d'exister si les étudiants de Yeshiva ne priaient pas. Et donc, on a monté une espèce de raison morale qui vient venir être... Ouais. Une raison supérieure, hein, une sorte de force majeure qui fait que si l'on voulait seulement toucher un cheveu d'un des 180 000 jeunes, mais enfin 56 000 en âge de faire l'armée, hein, qui pour une grande partie, faut quand même le dire, tiennent les murs dans les yeshivot, on imagine que aussitôt Tsahal s'effondrerait. J'ai entendu aujourd'hui un jeune me dire, dans le cadre d'un reportage que j'ai réalisé, que si les étudiants de yeshiva n'étudiaient pas, Tsahal et tout Israël s'effondreraient. Et ils y croient dur comme fer. Donc ça, on a quand même créé ça, Yaël, et c'est extrêmement problématique.
Alors, selon vous, parce qu'on a entendu les manifestations qu'il y a eu la semaine dernière et les semaines précédentes, on ne bougera pas d'ici, on ne fera jamais l'armée, on préférera aller en prison, on préférera...
Ou prendre l'avion.
Oui, ils ont dit on quittera le pays aussi, bon. Okay. Est-ce que vous avez le sentiment que, parce que jusqu'à présent on disait Tsahal ne veut pas vraiment les Haredim, Tsahal n'en a pas besoin. Aujourd'hui, un, on en a besoin, et deux, maintenant, comme vous dites, stop. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de les intégrer en fait à la société israélienne, puisque là ils sont en marge de la société, et surtout est-ce que cet endoctrinement dont vous parlez va changer, parce que c'est quelque chose qui est, je veux dire, un soldat qui fait l'armée, il a le droit de ne pas rentrer en uniforme pour ne pas se faire lyncher en arrivant dans certains quartiers chauds de Mea Shearim ou de Bnei Brak. Donc est-ce que vous pensez que ça va changer aussi dans la tête des gens, dans l'éducation qu'ils reçoivent à la maison?
Alors ça pourrait changer, il faut comprendre que le monde ultra-orthodoxe est extrêmement, beaucoup plus varié, beaucoup plus fluide que ce qu'on peut imaginer. D'abord, il y a des marges de 15 à 20% de la population ultra-orthodoxe qui va quitter le mode de vie religieux. C'est d'ailleurs la plus grande partie des recrues du bataillon Netzach Yehuda, qui est donc le bataillon qui a été créé pour les soldats ultra-orthodoxes, pour lesquels la seule condition pour y rentrer est d'avoir été 2 ans dans une école haredi pendant sa scolarité entre 13 ans et 18 ans. Donc il y a énormément de jeunes qui étaient un petit peu en décrochage scolaire ou de familles dont les parents ont fait teshuva, mais où eux, ça ne les intéresse pas. Donc c'est pas vraiment des bataillons ultra-orthodoxes. Je pense que tout simplement, ces âges vraiment critiques, hein, entre 18 et 25 ans aujourd'hui, mais bon, 22, 23 ans, sont justement des âges où on forge sa personnalité. C'est vrai que quand on a connu que des écoles ultra-orthodoxes, depuis 2 ans, depuis l'âge du Cheder, jusqu'à 18 ans, donc ce qu'on appelle la yeshiva gdola, enfin 19 ans normalement, on a très très peur du monde extérieur, et il y a une véritable terreur d'être sécularisé de force, ça veut dire de rentrer à l'armée et qu'on vous empêche d'être haredi, qu'on touche à votre mode de vie, surtout si on vous présente...
Qu'est-ce que ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça montre aussi sur leur mode, enfin, leurs convictions peuvent rester les mêmes convictions, personne ne va jouer avec leur cerveau, et si c'est le cas, ça veut peut-être dire que les convictions n'étaient pas aussi fermes qu'elles le paraissaient.
Ou c'est surtout l'idée qu'ils se font, parce que c'est ce qu'on leur raconte. Enfin, après, on est, vous savez, un enfant, il sait ce qu'on lui raconte. Le problème en Israël de la séparation du système scolaire en 4 secteurs séparés, c'est qu'un enfant issu du secteur ultra-orthodoxe ne rencontrera jamais d'autres enfants différents de lui. Alors, il le voit à la Coupa Trolim, c'est le grand endroit où Israël se brasse. Au supermarché, même pas, puisqu'ils ont leur propre supermarché, leur propre quartier. Donc, il n'y a que le système de santé. Donc, il y a une véritable terreur et c'est ce qu'on leur raconte. On va vous obliger à manger pas cachère, on va vous dire d'enlever votre kippa, on va vous obliger à raser votre barbe, etc. Comment savoir que ce n'est pas vrai si on ne vous le dit pas? Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Cela étant, je pense qu'avec un travail intelligent et une conscription obligatoire, Tsahal dit à mots couverts qu'il se contenterait... alors on n'a pas parlé des chiffres, Yaël, mais en gros, c'est chaque année... Oui, très rapidement. C'est à peu près 12 000 jeunes gens de la société ultra-orthodoxe qui sont mobilisables chaque année. D'accord ? Donc 12 000. Sur ceux-là, il y en a 1 200. Qui sont donc mobilisés sur les fameux bataillons de Netzach Yehuda. Et on estime que des vrais soldats vraiment issus du monde ultra-orthodoxe, il y en a 300. Voilà, donc c'est vraiment très très peu sur 12 000, hein, on se rend bien compte. Mais on pense que si on faisait les choses de façon plus intelligente, si on leur créait vraiment les conditions qu'il faut, si on pouvait leur prouver que la nourriture est cachère, si on pouvait leur prouver que... Alors, en plus, ils demandent à ne pas avoir de femmes, etc. Ce serait possible. Je pense qu'il y a un énorme travail de Hasbara, d'accord, interne. Il faut des rabbins qui soient ouverts d'esprit, il faut des rabbins qui puissent leur expliquer. Il y a évidemment des gens qui ne seront jamais mobilisables. On n'imagine pas non plus la police aller les chercher chez eux. Mais je pense que le message qui est envoyé par la société israélienne, par la Cour suprême, par les députés, par la colère des citoyens, par tous ceux qui servent dans l'armée, est un message très puissant et très important. On n'arrête pas de dire que la société ultra-orthodoxe traverse un processus d'israélisation. Eh bien, c'est exactement ça, c'est l'incarnation de ce processus. Il faut aussi participer au service militaire. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais en tout cas, le message est très, très clair. Et il est évident qu'on a atteint un point de non-retour. Et dernière phrase, c'est l'échec cuisant du gouvernement le plus à droite, le plus religieux, le plus conservateur de l'histoire d'Israël. Les ultra-orthodoxes pensaient qu'ils allaient obtenir tous leurs rêves, tout ce qu'ils avaient demandé, tous les budgets et toutes leurs conditions, et regardez le boomerang.
Yael Ifra, merci pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Canon Français.
Merci Yael.